Grande Table, la suite chez nos confrères de France Bleu Vaucluse. Le mariage de la semaine d'art en Avignon, changer l'art pour changer le monde, et des 100 ans du Théâtre National Populaire, à la fois projet culturel et politique et lieu d'expression, passé du palais de Chaillot à Paris, à Villeurbanne en 72. Alors quel service public de la culture? Qu'est-ce qu'un théâtre populaire et comment le faire vivre encore aujourd'hui? Avec nous, le directeur du Festival d'Avignon et celui qui a imaginé cette semaine d'art en Avignon, Olivier Pibon. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean Bellorini, qui est resté avec nous après avoir évoqué dans la première partie de l'émission Le Jeu des Ombres, cette pièce qui fait l'ouverture de cette semaine d'art en Avignon, qui devait d'ailleurs aussi faire l'ouverture de la 74e édition du Festival d'Avignon cet été. Jean Bellorini est avec nous, directeur du TNP de Villeurbanne depuis janvier 2020. Bonjour ou rebonjour.
Rebonjour.
Le Festival d'Avignon annulé, Olivier Py, vous avez imaginé cette semaine d'art qui a débuté vendredi soir ici à Avignon. Un festival petit format, une alternative, on imagine surtout, et peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la consolation pour le public, pour vos équipes, pour le théâtre.
Non, j'aimerais pas dire ça, parce que j'aimerais que ce soit une chose en soi. C'était bien autre chose qu'une consolation, parce que nous sommes inconsolables d'avoir perdu notre festival de juillet. C'est un dommage immense, d'abord pour les artistes qui n'ont pas pu jouer, et puis pour l'ensemble du monde théâtral, parce que le festival irrigue le monde du théâtre et de la danse de manière internationale, mais aussi et surtout pour cette ville qui vit pratiquement de son festival. La ville d'Avignon, comme vous le savez, est très pauvre. On pense que peut-être 130 millions de retours économiques arrivent chaque année au mois de juillet, donc c'est un dommage considérable pour la ville. Donc il a fallu faire quelque chose, mais qui ne soit ni dans la nostalgie, ni dans la déploration, ni dans la consolation. Non, ça ne nous suffit pas. Non, qui soit un geste de vie, tout simplement. C'est-à-dire remonter sur les plateaux, revenir sur scène et réaccueillir le public.
Un geste de vie, alors que vous aviez pensé articuler cette 74e édition autour du désir et de la mort. Voilà
oui.
Comment le temps et l'époque a parlé pour vous. Et est venu vous contredire d'une certaine manière. Au programme, 7 spectacles, création ou première, toute cette semaine, sur les 47 qui étaient annoncés à l'été dernier. Il y aura qui? Il y aura quoi? Sachant qu'il n'y aura pas de cour d'honneur.
Hein. Alors, vous connaissez la phrase de Bossuet sur Molière, il a voulu jouer la mort et la mort s'est jouée de lui. C'est un peu ce qui nous est arrivé, puisqu'on avait choisi la mort comme thème de ce festival. On a essayé de retrouver cette idée-là. Et c'est vrai qu'ouvrir avec une pièce qui convoque le mythe d'Orphée était absolument parfait, exemplaire, pour faire inventer un lien entre les morts et les vivants, c'est une chose extraordinaire du théâtre que les spectateurs perçoivent consciemment ou inconsciemment, mais qui ne sont pas simplement en relation avec leurs contemporains, mais qui sont aussi en relation avec tous les fantômes, tous ceux qui sont partis. Et puis quand nous allons au théâtre, bien sûr nous y allons en tant que citoyens, mais nous y allons aussi en tant que mortels. Nous apprenons à mourir, et à mourir plus joyeusement que dans la souffrance et la maladie.
Bah dites-le avec le sourire quand même au moins alors, non ?
Mieux que le sourire, on peut exulter de joie de voir cette transsubstantiation de la mort en œuvre d'art. Hein, vraiment, non, c'est magnifique. Moi, en tout cas, les moments que j'ai vécu hier m'ont fait un bien considérable. J'avais l'impression que je me réveillais entre les morts. Je pense que le public aura la même sensation. Il a déjà réservé de manière très, très, très massive, même si nous avons dû changer les horaires à cause du couvre-feu. Le public est extrêmement présent, je crois, une soif immense de culture, plus que jamais.
Oui, parce qu'il y a quand même un peu un mauvais sort hein, qui s'abat sur vous. Puis après, on parlera que des bonnes nouvelles. Une sorte de fatum, hein. Après les reports, les annulations, la deuxième vague et jeudi l'annonce d'un couvre-feu élargi aux deux tiers du pays, dont le Vaucluse. Jusqu'à quel point, Jean Bellorini, Olivier Py, le théâtre peut-il s'adapter ?
Je crois qu'il faut qu'il s'adapte pour qu'il ait lieu absolument au maximum. Après, effectivement, on n'oublie pas que c'est une cérémonie qui normalement a lieu le soir, etc. Mais on est encore dans le souvenir et c'est encore une histoire de fantôme. On peut se permettre pendant un moment d'aller au théâtre à 11h du matin et en se disant, bah, ça aurait dû être le soir. Ça, au contraire, ça a du sens aujourd'hui et ça devient un acte peut-être encore plus politique pour un spectateur de peut-être d'inverser, d'aller au théâtre avant d'aller travailler. Ça peut être formidable et peut-être qu'on va inventer autrement, différemment, voir d'autres visages, avoir une écoute différente d'un spectacle parce qu'on n'a pas forcément vécu la même chose dans la journée. Maintenant, je crois qu'on se doit de se réjouir que ça puisse avoir lieu en ce moment, sous quelques conditions que ce soit et à n'importe quel horaire.
C'est vrai que c'est un rituel de la nuit, habituellement, hein, Olivier Pie.
Plutôt, oui, ça fait vraiment partie de la doctrine villarienne, même, la nuit. Mais déjà, créer cette semaine d'art, c'était déjà une manière d'inventer quelque chose à partir de la catastrophe. Le premier festival, le public ne sait pas forcément, mais le premier festival ne s'est pas appelé festival, il s'appelait une semaine d'art en Avignon. Pendant les deux premières éditions, il n'a pas encore porté le mot de festival, qui d'ailleurs ne plaisait pas beaucoup à Villars et préférait le mot de rencontre. Alors souvent je pense à ça, je me dis ce serait formidable si on pensait le festival non pas comme un grand marché du théâtre, pas du tout, mais comme un lieu de rencontre, un lieu où une certaine communauté d'esprit avec du temps, avec un temps complètement différent, se réunit pour trouver quelques architectures d'espoir. Il ne s'agit pas d'autre chose ou d'espoir, non, mieux que ça, d'espérance. Si cette espérance est laïque, elle l'est, tant mieux, très bien. Et si elle touche à des hypothèses divines, tant mieux, très bien aussi. Tout le monde est le bienvenu dans la grande aventure théâtrale.
Vous avez évoqué la question des sous, du manque à gagner pour la ville, pour les hôteliers, les restaurateurs, les théâtres bien sûr, parce que c'est une privation du in mais aussi du off et de toutes ces compagnies qui viennent habituellement montrer là leur spectacle, ce sur quoi elles ont travaillé et ont engagé aussi des budgets assez conséquents. Vous avez une précieuse alliée aujourd'hui au ministère de la Culture, Roselyne Bachelot, qui avait déjà choisi Avignon au début du mois pour ces états généraux des festivals. De quoi ont-ils accouché ces états généraux ? Du concret ?
Nous avons pris d'abord conscience que le monde de la culture est créateur de trésors. Et ces trésors peuvent être sonnants et trébuchants. C'est en cela que le libéralisme, quelquefois, n'est pas du tout pragmatique. Puisque nous créons, au contraire, de l'économie. Vous savez, vous connaissez l'anecdote de Rimbaud qui a écrit une lettre à Ernest Delahaye qui lui écrit pas un troisième poème parce qu'il veut pas qu'il paye 3 centimes de porc. Ben oui, mais il y a 20 ans, cette lettre s'est vendue 250 000 euros. Alors voilà ce que nous faisons à partir de rien. Du souffle, du désir, de nos hypothèses, de nos amitiés, nous créons de véritables trésors. Ça, je crois que Roselyne Bachelot l'a très bien compris, mais je crois aussi que, à l'occasion de cette crise, il y a eu une prise de conscience de la culture comme moteur économique et comme lien social. C'est extrêmement important parce qu'on ne veut pas être simplement là à se légitimer avec des propos qui appartiennent au capitalisme. On s'en fiche. Ce que nous créons, c'est d'abord du lien social. Et c'est pas n'importe quoi, parce que j'entends toujours les gens un peu ricaner quand on parle de théâtre populaire. Mais et diable, c'est qu'ils ne sont jamais venus dans les salles de théâtre, qu'ils n'ont jamais compris ce que c'était que le service public de la culture. C'est qu'ils en sont beaucoup trop éloignés pour voir à quel point sa définition est très simple, est vécue par les hommes et par les femmes qui le font et ceux qui l'apprécient.
Quelle est cette définition pour vous ?
Des trésors spirituels, mais financièrement à la portée de tous. C'est aussi bête que ça. Mais c'est tout ça. Et alors, vous savez, c'est souvent dans les salons bourgeois qu'on doute de la vertu du théâtre populaire. Et étonnamment, quand on va dans les écoles, quand on va dans les banlieues, quand on va dans les prisons, c'est aussi mon cas, on n'en doute jamais. On ne doute jamais de tout ce qui pourrait permettre d'apporter ces trésors spirituels à tous et particulièrement à ceux qui en sont exclus.
Aujourd'hui, tout le monde se revendique des figures tutélaires de Villars, de Vitesse, de Jouvet, de Planchon. Tout le monde dit faire un théâtre populaire et personne ne défend évidemment un théâtre élitaire, Olivier Pie, Jean Bellorini. Écoutons Antoine Vitesse, 1982.
Le théâtre que j'ai appelé élitaire pour tous, il y a quand même là une petite provocation et une malice dans cette expression, parce que les deux termes sont contradictoires. Si c'est élitaire, c'est pour quelques-uns. Bon, la happy few, dont parlait Stendhal. Si c'est pour tous, alors c'est pas élitaire. Eh bien, c'est ce paradoxe que je voudrais développer. Et je voudrais simplement témoigner de mes sentiments ici démocratiques. Dire que, en quoi consiste, à mon avis, la démocratie en matière d'art? Il s'agit non pas de nier que l'art du théâtre est un art de connaisseurs et demande des connaisseurs, mais d'élargir le cercle des connaisseurs. C'est ça le mouvement démocratique du travail théâtral. Brecht a dit, et je trouve que c'est magnifique, que le bon théâtre doit diviser le public et non l'unir. C'est vraiment pour moi un credo, cela. J'espère continuer à diviser le public et non pas à l'unir, surtout à ne pas l'unir contre moi, naturellement.
Élitaire pour tous, Jean Bellorini, l'assemblage de ces deux termes vous dérange, vous gêne, ou il y a une solution et vous la trouvez au quotidien dans ce que vous faites, dans votre pratique, dans votre création, à ce paradoxe?
On la vit même au quotidien, et au contraire, on a besoin de ces lieux justement où on n'est pas de la même communauté, on a besoin de minorités rassemblées à vivre la même chose et à comprendre différemment en fonction de son vécu et de ce qu'on est chacun. On a besoin d'églises comme ça qui amènent toutes les formes de vie les plus diverses possibles. Et aujourd'hui, alors, il s'agit juste d'aller plus loin et de faire mieux et plus. Il s'agit pas de dire c'est un échec, j'en sais rien. Une assemblée théâtrale est constituée de solitudes et on s'adresse à chaque solitude, et au contraire, plus elles vont être différentes, plus ça va être riche et partagé. J'aime l'idée qu'on s'assoie à côté de quelqu'un d'inconnu et qu'on a partagé 2 heures d'une vie en projetant différemment que l'autre.
100 ans pour le Théâtre National Populaire, à sa création, quelle était sa raison d'être?
Mais je crois que c'est exactement ça, c'est la réunion d'une société divisée. Et aujourd'hui, on le vit ô combien. Et avec toutes ces crises, avec ce terrible événement qui s'est passé, on revendique liberté, on revendique fraternité. Il nous manque un tout petit peu égalité. Et égalité, c'est la culture et l'éducation pour tous, absolument pour tous. Et on n'en fera jamais assez, jamais trop.
100 ans après, la raison d'être pour vous du Théâtre National Populaire n'a pas changé.
Non, et je crois que surtout...
L'époque a changé.
Malheureusement, je crois qu'on est exactement dans tous les mêmes débats, c'est-à-dire, est-ce que c'est de l'exigence absolue? Bien sûr que oui, pour tous. Et non, ça ne doit pas être plus accessible parce qu'on devrait s'adresser à une partie. Au contraire.
Un théâtre élitaire pour tous, Olivier Py?
Oui, bien sûr, je souscris tout à fait à cette formule. Je vous parlais tout à l'heure de trésors. Et alors, il y a un mystère, c'est pourquoi certains êtres se privent de ces trésors. Moi, je suis face à ça comme face à une énigme. Ce qui est pour moi énigmatique, c'est que on n'ait pas le désir de rentrer dans les musées et de rentrer dans les théâtres. Parce que c'est quand même une des rares occasions dans la vie humaine qu'on a de rencontrer le sens. Et je tiens à dire que ce sens n'est pas religieux, parce qu'il ne vient pas d'en haut, qu'il ne s'impose pas, qu'il a souvent beaucoup plus la forme d'une question, comme chacun sait. Mais alors c'est ainsi, il y a des êtres qui se priveront toujours de ces trésors-là. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que des conditions sociales ou sociétales privent les êtres qui en auraient le désir d'y accéder. Moi, je suis né parce que une troupe de théâtre est venue dans ma petite école de province nous faire découvrir ce que c'était que l'art théâtral.
C'est comme ça que je suis né. Elle est venue à vous, cette troupe?
Oui, elle est venue à nous, grâce à des professeurs qui sont des héros.
Ouais.
On l'a beaucoup dit ces derniers jours, et j'en suis très heureux, parce que je l'ai toujours pensé. Grâce à eux... Je suis né spirituellement. Alors, il me semble que j'ai un devoir vis-à-vis de ces professeurs qui ont fait venir l'art dans mon école. J'ai un devoir vis-à-vis de ces artistes qui ont fait ce travail-là. Et j'ai un devoir vis-à-vis des jeunes générations qui pourraient, eux aussi, découvrir l'étincelle de la vie spirituelle.
Donc, on ne peut pas blâmer ceux qui ne vont pas non plus naturellement vers ces lieux de culture, naturellement vers le théâtre. Se pose toujours la question de savoir comment les attirer à vous.
Oui, bien sûr. Mais vous savez, les moyens sont au fond assez simples. D'abord, la tarification doit être basse, elle doit rester basse. Il faut rappeler qu'une subvention subventionne d'abord les spectateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un service public de la culture ? C'est d'abord de subventionner les spectateurs. Pas forcément, pas du mécénat d'État. C'est pas de donner plus d'argent aux artistes qui seraient des enfants gâtés. C'est pas ça du tout. C'est simplement de faire qu'on puisse s'offrir cette aventure du théâtre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je crois qu'il faut jamais prendre les gens pour des... Jamais. Je ne pense pas une seconde, quand je travaille Shakespeare avec des détenus, que je comprends mieux Shakespeare qu'eux. C'est eux, au contraire, par leur expérience, par leur vie, par leur soif, par leur besoin de sens et de littérature, qui me font comprendre tout le prix de Shakespeare. Donc là, il y a une sorte de démocratie qui s'installe dans la salle. Chacun a sa place, mais toutes les places se valent, tous les points de vue se valent, et c'est quelque chose que nous constatons au quotidien, de manière très très simple et de manière très vérifiée, parce que qu'est-ce que j'entends dire souvent aussi, que les salles sont vides, que nous ne jouerions que pour une élite, etc., etc. Tout ça, c'est n'importe quoi. C'est ceux qui ne viennent jamais au théâtre.
Et puis on a besoin d'étonnement. Je crois que le spectateur a besoin d'être étonné de sa propre émotion. C'est pour ça que c'est important de revendiquer un théâtre d'art et pas forcément un théâtre qui aurait un autre sens, plus pragmatique, plus compréhensible. Mais on est toujours surpris soi-même, une émotion qui nous submerge, ou une découverte. On a besoin de découverte, on a besoin de se rappeler que le théâtre est une terre étrangère.
C'est quoi être étonné par sa propre émotion ?
C'est de ne pas savoir qu'on allait reconnaître quelque chose en l'autre. C'est de ne pas comprendre que dans l'étranger, il y a un peu de soi-même.
Donc vous n'adaptez pas votre offre
surtout
à vos
pas,
publics ?
Surtout pas, c'est le public qui comprend avec ce qu'il est différemment en fonction.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour vous, Jean Bellorini, pour qu'un théâtre populaire advienne vraiment, réellement ? Ça se joue plus en amont, comme l'évoquait Olivier Py ?
Pourquoi qu'il advienne réellement ?
Il est là !
Je
crois qu'une des choses aujourd'hui peut-être plus claires, plus parlantes pour des jeunes gens, c'est la pratique, peut-être plus qu'une position qui, encore une fois, pourrait être considérée comme passive. Or, tout le travail d'un spectateur, c'est de devenir actif. Mais dans notre monde, ça semble encore plus difficile aujourd'hui. Donc moi, une de mes solutions, c'est de systématiser la pratique artistique absolument pour tout le monde, pour après venir regarder l'autre en changeant de point de vue, mais après avoir été au centre.
Depuis des années, dans tous les lieux du théâtre public et de la décentralisation, nous allons dans les écoles, nous allons dans les associations, nous allons dans les banlieues, nous faisons ce que j'appelle la décentralisation de 3 km, c'est-à-dire pas celle qui va de Paris à Avignon, mais celle qui va d'Avignon à Montclar. Nous faisons ça, il y a des hommes et des femmes très obscurs, on ne parle jamais, qui travaillent quotidiennement à cette chose-là. Il serait temps que la République en ait hautement conscience, mais aussi que le grand public en ait conscience, parce que c'est beau, c'est vertueux, c'est l'orgueil de la France, c'est l'exception culturelle de la France, et je ne peux pas entendre dire que la décentralisation est rouillée, qu'il n'y a que des élites dans les salles, parce que ça n'est pas vrai. Nous avons chaque année des études sur le public qui vraiment démontrent l'erreur totale de ces propos répétés.
On revient au rêve de départ avec Jean Villard, 1950.
Le but était très simple et comme tous les buts simples, il était assez difficile et nous poursuivons en faisant en sorte d'en approcher le plus près. Le but était celui-ci, théâtre populaire signifiait pour nous réunir dans les travées du théâtre, dans ce qu'on appelle le public, les gens appartenant à toutes les classes de la société, mais évidemment et plus particulièrement celles qui, pour des raisons de bourse modique, va rarement au théâtre, va rarement au spectacle. Ce but, nous l'avons, je pense, entièrement atteint quand nous sommes allés dans des lieux populaires, ce que l'on appelle la banlieue parisienne, quand nous sommes allés à Suresnes, notamment, à Clichy, à Gennevilliers. Il y a un problème grave, c'est le problème des salles. Les salles en banlieue, ou bien ne sont que des salles de fête sans scène, ou des petits théâtres, ou de grands théâtres d'ailleurs, où l'acoustique n'est pas toujours très bonne, ou en hiver, ces salles sont glacées. Par exemple, à Clichy, ce n'est pas dans un théâtre que nous avons joué, c'est dans la halle aux poissons. Au-dessus de la halle aux poissons, et l'après-midi quand nous répétions, il restait encore les odeurs du poisson de l'après-midi. Mais le soir, nous faisions en sorte pour que ça n'existe plus.
Voilà, Jean Villard, Olivier Py, qui dit exactement 70 ans avant vous, ce que vous venez d'exprimer.
C'est plutôt l'inverse, c'est moi qui dis ce qu'il a dit 70
c'est vrai,
ans
ouais.
après.
Oui, mais là, comme on l'a entendu après vous, en fait, peut-être j'ai fait un mauvais enchaînement
non,
des voix.
Non. Il a chanté et moi, je me contente d'insister.
Ce travail sur dans la banlieue hein, parisienne, tel qu'il l'évoquait, lui, à ce moment-là, être au plus proche aussi des publics, s'avancer vers eux, Jean Bellorini. Vous allez, on le disait, cette année, fêter les 100 ans du théâtre populaire, du théâtre national populaire. Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour
Je vais commencer par faire une création avec une trentaine de jeunes gens de 15 à 20 ans autour des textes de Firmin Gémier. On oublie que les 100 ans, c'est pour fêter Firmin Gémier. C'est lui qui, en 1920, le théâtre national populaire ambulant, c'était Gémier. Et c'était ce théâtre de la fête, ce théâtre du rassemblement, ce théâtre presque de l'ordre du son et lumière, joyeux. Plus fort que, peut-être en tout cas différemment que l'idée d'après de toutes les années 50 et de Villard et du magnifique credo du texte partagé et des imaginaires partagés. Mais voilà, les fondements, et on l'oublie, c'est Gémier. Donc on va commencer par fêter Gémier. Et puis tout au long de la saison, on se souviendra de tous les directeurs du TNP, évidemment en accueillant par exemple Jo Lavaudan avec son Roi Lear, en invitant Michel Bataillon à parler de Planchon, en accueillant la création en ce moment de Jeanne, de Peggy, de Christian Scaretti. Voilà, tout au long de l'année, on égrènera comme ça des événements importants pour finir par un temps fort à l'automne prochain, où évidemment il y aura des soirées qui rendront hommage un peu plus concrètement. Et on se reposera de la question peut-être même de la troupe au TNP. La nécessité en fait d'avoir des acteurs permanents au sein d'une maison qui puissent effectivement aller le matin au plus proche des publics et jouer le soir sur les plateaux. Que ce soit les mêmes personnes,
ça
les mêmes
acteurs.
Ça n'est
pas le cas aujourd'hui.
Et non, malheureusement, c'est faute de moyens encore une fois.
Et l'avantage, ce serait, notamment dans une période de crise sanitaire comme celle-ci, à un moment où tout est mouvant, où il est compliqué de fixer à la fois un calendrier
pour
les représentations. C'est
une réponse. C'est une réponse à une alternative possible immédiate quand on a une troupe, et c'est mon cas. Il suffirait qu'elle soit totalement employée et on manierait les plannings beaucoup plus librement pour tout d'un coup inverser, changer, transformer, s'adapter ce dont on a besoin, ce qu'on a besoin de faire quotidiennement. Quotidiennement en ce moment.
Parce qu'avec une troupe, il y a un répertoire qui peut être déjà connu, travaillé et plus facilement possible de mettre en œuvre.
Il y a la création, il y a le répertoire, il y a les spectacles qui existent, il y a les spectacles qu'on peut aller jouer, il y a les changements de rôle, il y a le cas contact, le cas positif qui fait que l'autre reprend le rôle immédiatement. Voilà, il y a tout ce que fait la vie d'un théâtre, évidemment.
Directeur de troupe.
Est-ce que tu me prendras dans la troupe quand je serai un ex-directeur de festival? Je joue très bien les ridicules si tu as des pièces pour ça.
Directeur de troupe, vous imaginez l'être un jour puisque vous commencez à parler de votre avenir, l'après Avignon?
Jamais, c'est
le festival d'Avignon.
Directeur de troupe, même à Avignon, évidemment, même si notre troupe est intermittente.
Ouais.
C'est la force de l'intermittence. Et là, mais c'est un rêve extraordinaire, évidemment.
La force et ses faiblesses, hein, c'est aussi ce qu'évoquait Jean Bellorini sérieusement.
Oui, mais la force d'une troupe, d'abord, parce qu'on peut mener une action sociale localement, vous savez. Le théâtre, ça se passe quelque part, à un temps précis. Et ça, c'est extraordinaire, hein, par rapport à un monde qui n'est plus présentiel. Il y a une aura de la présence aujourd'hui que les jeunes générations comprennent avec beaucoup plus d'émerveillement que nous encore.
Vous avez envie de faire quoi après, Olivier Py?
Je sais pas du tout. J'ai pas peur de l'avenir. J'ai peur du passé, mais j'ai pas du tout peur de l'avenir.
L'utopie, celle d'un théâtre national populaire qu'on évoquait, c'en était une au départ aussi. Elle sait, à vous entendre, l'un et l'autre, entièrement réalisé aujourd'hui. Mais le faut-il vraiment? Est-ce que c'est pas non plus cette utopie du théâtre national populaire, quelque chose qui est en permanente évolution, en recherche, une sorte d'expérimentation aussi?
C'est évidemment le cas. Je suis pas sûr qu'elle se soit totalement réalisée. Elle n'a pas fini de rester utopique. À aucun moment, elle s'est affaiblie et amoindrie. Et même toutes les guerres qui ont été menées contre l'existence même de ce rêve l'a renforcée et continue aujourd'hui à le renforcer. Alors évidemment, c'est insupportable de temps en temps d'avoir l'impression de ne pas exister et de ne pas éclore complètement dans une réalité en fait partagée de tous. Dans une vie, dans un concret de ce que font les théâtres. Pour autant, ça a consolidé cette absolue nécessité d'être, au même titre que la crise et l'empêchement, le manque crée du désir, c'est de cet ordre.
Le manque crée du désir, Olivier Pied.
Oui, mais enfin, faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'il peut créer de la frustration. Donc il faut que le lien social ne soit pas trop abîmé. Et franchement, je suis inquiet sur l'avenir, pas seulement sanitaire, mais économique et social de notre pays, parce que on en parle assez peu de la crise économique et de la crise sociale. Je pense qu'il ne manquait vraiment rien d'autre au Front National qu'un attentat et une pandémie pour convaincre les imbéciles que la faute vient de l'étranger, que la faute vient toujours de l'autre, et que nous ne serions pas capables de créer une société, de créer société.
Mais au fond, est-ce que c'est pas la raison encore plus importante que les artistes puissent amener du trouble, puissent amener un esprit critique? Je pense régulièrement à ces deux jeunes gens qui ont tout d'un coup vendu ce qui s'était passé dans leur classe. Ils ont quoi, 14 ans, ces jeunes gens qui ont dit, mais simplement ils n'ont pas été eux armés pour avoir l'esprit critique, et derrière il s'est passé ce qu'on sait. C'est, oui, c'est ça qui est terrible. Plus, et en fait, on se bien plus que les méchants qu'il faut aujourd'hui attaquer. Ça, plus, ça reste des méchants. Mais je crois vraiment qu'il faut d'autant plus aller à la rencontre de tous ceux qui a priori n'ont pas ces armes-là.
Et la tragédie que représente la lâcheté des réseaux sociaux. C'est si facile de désigner un être au lynchage et à la vindicte en tapotant sur son clavier le soir. Il faut que nous tous nous prenions conscience de ça. C'est extrêmement dangereux. C'est de la haine pure et nous avons l'impression que ça n'est rien. Voilà, ça peut produire de la haine et ça peut produire du meurtre. Là, nous sommes face à quelque chose de totalement nouveau. Je crois que le théâtre peut-être inventera moyen de répondre à cette catastrophe civilisationnelle.
Est-ce qu'il doit se charger de cette responsabilité-là? Est-ce que c'est son rôle?
Oui, je le crois. Il doit continuer à nous rappeler que la parole a une valeur. Il ne faut pas imaginer que la parole n'est que du blabla. La parole peut aller jusqu'à tuer un être, et on l'a vu ces derniers jours. Mais la parole peut aussi sauver un être, sauver une existence. Moi, j'ai été sauvé, littéralement, sauvé de la mort par la parole, et notamment par la parole des poètes. Et le théâtre le rappelle inlassablement. Et il est un lieu, un oasis extraordinaire, où, en dépit du consumérisme idiot, de la course au suicide que la planète est en train de vivre, on peut rappeler que les véritables trésors sont des trésors de parole.
Parole ou langage, comme nous le disait Valère Novarina à l'instant, Jean Bellorini, qui est lui aussi attaqué aujourd'hui, comment redonner de la force aux mots, à cette parole?
En tout cas, c'est en revendiquant cette polyphonie dont on parlait de la parole et la nécessité de se rappeler de Rabelais, enfin ce que disait Rabelais dans Les Paroles Gelées, en fonction de qui dégèle la parole, le sens prend une dimension tout autre, et on entend avec les oreilles, mais on entend aussi avec le cœur, et on entend bien plus largement, bien plus sensiblement que ce qu'on pense. Et non, la parole n'est pas que un mot de communication à message. La parole est une musique intérieure qui permet le dialogue avec l'autre.
Et le développement de l'esprit critique. Olivier Py, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette semaine d'art à Avignon?
Beaucoup de choses. On verra d'abord l'Afrique et le Japon qui ouvriront le côté international du festival. On retrouvera aussi des Espagnols avec Israël Galvan et Nino de Leche qui transforment le flamenco. Dans les petits villages partout, on jouera Andromaque avec Gonal Morin. Une version extraordinaire de Moby Dick d'Ingvild de Aspeli avec des marionnettes. Et puis ces espèces d'ovnis du théâtre qu'on appelle les Raoul collectifs. Il y aura aussi des expositions avec Viva Villa, la maison Yvon Lambert, des ateliers de la pensée, des rencontres. Et voilà, sous nos masques et séparés et sans contact physique, on continuera à faire vivre l'aventure.
Pas sur scène?
Non, sur scène, les masques sont différents.
Vous avez réfléchi à cette question-là?
Pour moi, on a commencé les répétitions du Jeu des Ombres tout début juin, c'est-à-dire une semaine et demie après la fin du confinement, et il était absolument impensable de ne pas laisser la liberté totale à l'acteur et donc de sacraliser l'espace du plateau, c'est-à-dire de tout mettre en œuvre dans le théâtre autour pour prendre le maximum de précautions, mais pour que le plateau, lui, reste sacré et libre.
Vous appelez, comme Olivier Py, Jean Bellorini, un nouveau pacte entre le monde de la culture et les pouvoirs publics, et qu'est-ce qu'on mettrait dans ce pacte idéalement pour vous ?
Je crois qu'on se doit effectivement de tenir ce pacte, et moi j'y rajouterais évidemment l'éducation, peut-être encore plus fort, l'alliance intime entre la culture et l'éducation aujourd'hui doit avoir plus de sens, plus de force. Et croire en le pouvoir d'un artiste qui transmet l'invisible, l'inconnu et ce que l'autre n'est même pas, ne soupçonne même pas qu'il contient en lui est la base. L'enseignant enseigne ce qu'il sait, l'artiste enseigne ce qu'il ne sait pas.
Donc il y a encore un tout petit peu de chemin à faire quand même.
Il y a toujours du chemin à faire. C'est une guerre qui n'est jamais finie, bien sûr, mais aussi beaucoup d'espoir.
Quelle aide vous demandez aujourd'hui au pouvoir public ? Vous disiez tout à l'heure, elle n'est pas simplement sonnante et trébuchante. Ça passe par quoi ? Un soutien clair des pouvoirs publics ?
Clairement, il y a des moyens financiers qu'il faut trouver parce que nous vivons une crise unique. Mais nous avons une ministre qui a été très militante et qui a réussi à obtenir 5% d'augmentation du budget, 2% sur le plan de relance. Bravo. Il y a autre chose, je crois, qu'il est important de citer, c'est le lien qu'il peut y avoir entre l'État et les collectivités locales. Il faut que l'État soit sans arrêt l'avocat de la culture en région. Parce qu'on imagine que tout se passe à Paris, mais ça aussi, c'est complètement faux. Il y a des tas de choses qui se créent et qui, après, vont jouer à Paris alors qu'elles se sont créées en région. Mais ça, c'est la force de la France, il faut l'identifier. Et je pense qu'il faut créer un pacte beaucoup plus fort entre les collectivités locales, les petites et les grandes, et le pouvoir central.
Tout commence, tout continue, tout s'invente, écrivez-vous Olivier Py. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Je rappelle que la Semaine d'art en Avignon a débuté vendredi, ouverture, levée de rideau, et qu'il retombera ce rideau le 31 octobre. D'ici là, plusieurs spectacles et créations à voir, et toutes les infos sont à retrouver sur le site de l'émission. Merci à vous, Jean Bellorini. Bon anniversaire au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Et plein de belles choses donc pour cette pièce, Le Jeu des Ombres, qui débute ici son chemin, enfin, à Avignon, et qui va se poursuivre aux Gémeaux, à Sceaux, en région parisienne, avant de tourner partout en France. Merci à tous les deux. Et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Oriane Delacroix et à Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Jean Bulot pour la Grande Table des Idées avec Laura Dutèche-Pérez. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Thomas Beau, ici à Avignon. Un grand merci à nos confrères de France Bleu Vaucluse pour leur accueil. Bernard Astier à la technique, Axel César pour la direction technique de la station. Vous dire aussi qu'on se retrouve demain pour une nouvelle grande table à Paris, dans nos studios, à la Maison de la Radio, avec la réalisatrice Mai Wen pour son film ADN, réflexion autour du deuil et de l'identité. Puis Trump et le New York Times, comment cette présidence a-t-elle profondément changé leur manière, nos manières de faire du journalisme. Très bel après-midi à tous sur France Culture.